Le hammam dévoilé, c'est le titre d'un livre qui montre à travers des photos de Anna Puig-Rosado l'histoire des hammams à Marseille. C'est l'association Caravan Kafila qui s'est chargée de la production et de l'édition de ce livre. Et durant 2 mois, du 2 mai au 30 juin, cette association Caravan Kafila organise un grand événement à la bibliothèque municipale de Marseille. Au programme, des expositions de photos, d'objets, des concerts, des films, des contes ou encore des ateliers autour des hammams.
Bonjour, Émilie Ziad, je suis donc la directrice artistique du projet Le Hammam Dévoilé, qui a été donc initié par Caravan Kafila. Donc Caravan Kafila est une association à but culturel. Nous, notre objectif, c'est de promouvoir les cultures de la Méditerranée dans un but de réunir les gens, de créer du lien, de faire connaître différentes cultures sur le territoire marseillais et puis au-delà, en fait. Voilà, de créer du lien, du dialogue entre les peuples, entre les cultures, les communautés sur Marseille. Donc, on a attaqué avec, comme premier opus avec le hammam, le thème du hammam.
Est-ce que c'est proprement méditerranéen, le hammam ?
Ben oui, tout à fait. En fait, le hammam, ça vient des confins de la Méditerranée. Ça a voyagé en fait à travers toute la Méditerranée. C'est arrivé aussi jusqu'à Marseille, puisqu'il y en a quand même relativement beaucoup. C'est ce qui nous a intéressé. C'était comment cette culture, cette tradition, comment ce patrimoine, il est arrivé ici. Évidemment, c'est à la fois un patrimoine, c'est à la fois un lieu de rencontre qui n'est pas pratiqué de la même manière par tout le monde, évidemment. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est le hammam ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport au hammam du Maghreb ou de Syrie ou de Turquie. Et sur Marseille, il y a une espèce de développement de ce patrimoine. Tous les 6 mois, il y en a un qui ouvre. Quoi.
C'est bon, alors, racontez-nous vraiment un peu ce qui se passe sur Marseille.
Voilà.
Qu'est-ce qui se passe
Donc, en fait, les hammams, ils existent depuis assez longtemps sur Marseille. En fait, notamment, beaucoup d'anciens bains publics ont été réinvestis en hammams, réhabilités, depuis à peu près la moitié du XXe siècle, on va dire. Mais déjà avant, le mot hammam était connu, d'une manière plus exotique, on va dire.
Mais rappelons ce que c'est un hammam.
Nous repartons du début. Le hammam, c'est un bain de vapeur, puisque hammam, ça veut dire eau chaude en arabe. Hammam, exactement. C'est donc un bain de vapeur, mais ça désigne aussi l'établissement où on trouve ce bain de vapeur, par extension, en fait. Donc c'est un lieu à la fois d'hygiène. C'est aussi un lieu social, c'est vrai, puisqu'on dit le hammam, c'est le café des femmes, par exemple, on entend souvent ça. C'est aussi un lieu thérapeutique, puisqu'on peut soigner des bronchites, des maux de dos, toutes sortes de problèmes comme ça. Donc c'est vrai qu'à Marseille, il est plus connu comme un lieu de détente, en fait. Un lieu où notamment les femmes, hein, principalement les femmes, viennent se détendre, s'occuper d'elles, etc. Mais on trouve quand même pas mal encore de hammams de quartier qui ont donc une vocation aussi sociale, de lien social, qui ont été créés notamment par des personnes migrantes, en fait. Voilà. Et qui peut-être ont prolongé comme ça leur culture, leur tradition sur le territoire de Marseille. Alors, en fait, la tendance, c'est vrai, c'est le hammam un peu bobo.
Il y a une petite mode là qui revient.
Voilà. Il y en a de plus en plus qui ouvrent. Bon, d'un côté, c'est bien parce que ça permet de faire découvrir cette culture, mais c'est vrai que c'est pas complet non plus parce que c'est différent, en fait. C'est une interprétation, quoi, en fait, du hammam. C'est sûr que si on va au Maroc ou en Syrie, on n'aura pas du tout la même approche, quoi. Donc, à Marseille, on en a à peu près répertorié entre 20 et 30, mais depuis le début du projet, il y en a presque 6 qui ont ouvert de nouveau. Oui. Donc, on n'a pas pu tout voir. Des hammams de quartier, il y en a de moins en moins, c'est vrai, c'est quelque chose qui disparaît. Donc, voilà, ça a tendance à être quelque chose de plus axé sur le corps, c'est vrai, de lieu de bien-être, de lieu de détente, de lieu de, voilà, espèce de temple de la beauté et du bien-être.
Ce qui n'était pas le cas auparavant.
C'était plus des lieux sociaux, donc peut-être un peu plus bruyants, un peu plus animés, où on traînait, on allait parler des heures, alors que maintenant, c'est vrai que c'est plus des lieux très calmes, lumière tamisée, avec la musique d'ambiance, on boit le thé, dans un beau décor. Voilà, c'est le hammam ici, c'est ça, quoi.
Mais pourtant, les personnes qui ouvrent ces hammams sont des personnes aussi qui sont issues de la culture du hammam traditionnel, j'ai envie de dire.
Bah, tout à fait, en fait, beaucoup de gérants et de gérantes de hammam sont souvent d'origine maghrébine, sur Marseille en tout cas. Et en fait, je pense que leur volonté, c'était de créer des lieux de rencontres culturelles, mais aussi de s'affranchir un petit peu de leur tradition et de créer un autre hammam, en fait. Quelque chose de différent de ce qu'il y a au bled, comme elles disent la plupart du temps. On ne veut pas retrouver un hammam bruyant, les enfants qui crient, on veut autre chose. On veut montrer quelque chose qui nous ressemble plus à ce qu'on est aujourd'hui ici. Donc c'est différent, c'est certain. Ouais.
La condition de la femme a un certain rapport aussi avec les hammams. Quel rapport on peut établir entre employons les grands mots, la libération de la femme, même au Maghreb peut-être, et ici, et les hammams?
Alors ça, c'est un grand sujet parce que, en fait, les femmes dans l'histoire n'ont pas eu tout de suite le droit d'aller au hammam dans la tradition musulmane, puisque c'est vrai que c'est les musulmans qui ont vraiment répandu la pratique du hammam en Méditerranée, puisqu'à la base, on va dire, c'est une reprise des termes romains transformés, donc qui a subi donc toutes sortes de modifications et qui a été réapproprié par l'islam, en fait. Et avec l'expansion de l'islam en Méditerranée, le hammam s'est répandu un peu partout. Et c'est vrai qu'à la base, il y a toujours une ambiguïté, parce que c'est un lieu, quand même, où la plupart du temps, bon, ça dépend des pays et des pratiques et des époques, mais les gens sont souvent presque nus. Donc il y a plein de choses comme ça, de sous-entendus, ça crée plein de choses un peu ambiguës. Donc ça n'a pas toujours été très bien vu. Donc les femmes n'étaient pas autorisées à y aller parce qu'on trouvait que c'était pas leur place. Peu à peu, c'est rentré dans les mœurs. Les femmes se sont appropriées le hammam et alors là, elles en ont fait vraiment leur lieu de prédilection, puisque bon, on sait que dans la tradition, les femmes étaient plus à la maison, donc elles profitaient d'aller au bain pour se retrouver, pour discuter, pour vendre des produits, pour arranger des mariages, etc. Donc c'est vrai que pour la femme, c'est très important.
Et puis c'est là qu'on vient voir la future voilà. Belle-fille, peut-être,
je sais pas si
de
ça
son
se fait
fils.
Toujours aujourd'hui, mais ça l'a été
si
pendant.
Si elle est bien formée.
Ou... ça l'a été pendant un bon moment comme ça. Donc c'était un lieu, c'est assez drôle d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires par rapport à ça, les marieuses. Il y avait plein de métiers, de corps de métier liés au hammam du coup. Les mariages se faisaient là-bas, tous les moments importants dans la vie d'un musulman ont passé par le hammam forcément, puisque c'est un lieu de purification hein, dès le départ. Il y a quand même cette ambiguïté qui fait que dans certains pays qui sont peut-être plus extrémistes, le hammam a disparu de fait aussi, comme en Iran, où bon, ben, c'est ça le plus pratiqué parce que c'était pas très bien vu.
Le corps nu.
Voilà, il y a une espèce de choses comme ça qui passent pas. En Algérie, par exemple, pendant la période du terrorisme, beaucoup de hammams étaient fermés. C'était très mal vu aussi. Et c'est revenu, mais de manière différente aussi. Donc, en fait, le hammam, il suit un petit peu l'évolution. Il colle comme ça à l'histoire des pays, des lieux. Et alors, ici, à Marseille, c'est tout à fait différent, puisque la plupart des hammams accueillent à la fois des Français, Françaises, comme des personnes issues d'immigration. Il y a un mélange. Et c'est vrai que les pratiques sont forcément différentes, quoi.
Fès, c'est la ville des mosquées.
Fès, matin,
des artisans et des commerçants qui se lèvent très tôt le matin.
Fès, matin, tsnaïa.
Mais Fès, c'est aussi la ville des bains.
Fès, matin, l'hammam.
Je vais vous raconter l'histoire du pauvre Sil Fatmi, le portefeuille.
درك نحكي لكم حكاية سيل فاطمي المسكين.
Comme chaque matin, Sil Fatmi se lève très tôt au chant du coq.
Et alors maintenant que beaucoup de hammams de quartier ferment petit à petit au profit de certains hammams beaucoup plus modernes, on va dire, qui s'adressent plus à une population occidentale, ces hammams de quartier plus populaires, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Où vont aller ces gens-là? Est-ce que c'est à l'image un peu de ce qui se passe finalement à Marseille, où les populations populaires plus pauvres sont un peu mises à l'écart de la ville et,
Alors il y a quand même pas mal de hammams qui ouvrent dans les quartiers de plus en plus extérieurs au centre-ville, puisqu'avant les hammams étaient quand même concentrés dans le centre-ville de Marseille, où les premiers hammams étaient sur Belzunce, un peu au-delà, et puis ça s'est développé. Maintenant il y en a beaucoup qui ouvrent dans les quartiers, quartier nord, dans les arrondissements extérieurs au centre-ville, donc... Et effectivement, le centre-ville a tendance à accueillir des hammams de plus en plus, ouais. De plus en plus, comment dire, de plus en plus chic, de plus en plus
branché.
Ouais, branché. Je sais pas comment dire. Voilà, c'est vrai qu'il y a cette tendance et que les vieux hammams du centre, bon, il en reste pratiquement plus, quoi. Mais c'est différent, parce que c'était souvent des hammams douches. Ça, c'est quand même quelque chose d'un peu spécifique. Alors, c'est-à-dire que c'était différence. Des hammams qui proposaient aussi les douches, quoi, publiques.
C'était les bains.
Voilà, donc c'était à la fois la douche du quartier ou dans les quartiers comme Belzunce, où souvent les gens n'avaient pas forcément de salle de bain. Donc ils allaient au hammam pour se prendre leur douche aussi, quoi. Pas forcément faire le hammam, puisque faire le hammam, c'est quand même une démarche. On n'y va pas pour 10 minutes. On y va pour y passer presque une après-midi. On y va des fois entre amis, on peut y manger, on peut s'y prélasser. C'est un état d'esprit quand même. Le hammam, c'est pas simplement se laver ou... Voilà, donc souvent, les hammams de quartier proposaient la formule hammam douche pour les gens qui voulaient juste venir se laver. Voilà. Donc, et ça, c'est vrai que ça disparaît complètement, hein. Le hammam douche.
C'était Émilie Ziad. Alors, durant 2 mois, du 2 mai au 30 juin, cette association Caravane Kafila organise à la bibliothèque municipale de Marseille un grand événement qui s'intitule Hammam dévoilé. Au programme de cet événement, des expositions, des concerts, des films, des contes ou encore des ateliers, et tout cela autour des hammams entre Marseille et le Maghreb. La musique est extraite de la bande sonore réalisée par Malik Ziad pour le conte musical Babouche Sage et Bouche Folle. Vous pouvez aller sur le site www.culture-hammam.com pour avoir des informations supplémentaires. Je vous rappelle que cette exposition, c'est du 2 mai au 30 juin aux archives municipales de Marseille, le hammam dévoilé.